Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Breton d'origine, Alex Le Béant s'est très vite passionné pour l'Asie à travers la littérature de voyage. Les livres ne lui ont pas suffi. J'ai toujours voulu, moi aussi, vivre le grand voyage, nous confie-t-il. Pour que le voyage fasse partie intégrante de sa vie, Alex passe le diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne et devient créateur de voyage pour l'agence Shanti Travel. Je l'ai rencontré chez lui dans les Alpes où il s'est installé avec Tenzin, sa femme tibétaine, et Lamo, leur petite fille. Dans cette émission, nous reviendrons sur son parcours de voyageur et son dernier voyage dans l'Himalaya en famille, à la recherche de l'histoire familiale de Tenzin. Que nous, on se connaît sans se connaître via les réseaux sociaux, donc il y a une magie quand même dans tous ces réseaux qui permettent d'incarner la rencontre dans la réalité. L'émission s'appelle « Regarde ailleurs », donc l'idée c'est vraiment de donner la parole aux gens que je rencontre souvent à l'international, en voyage. Ça peut être des réalisateurs, des photographes, des écrivains, des voyageurs. Toi, je pense qu'on se connaît par le biais de l'image et notamment aussi par le biais du voyage, parce que je sais que tu as créé une agence qui s'appelle Shanti, mais pas que. Tu as un parcours qui va être assez dense, assez riche. Donc on va prendre le temps de te rencontrer dans cette émission. Enfin, on va prendre avec les auditeurs le temps de rencontrer Alex Le Béant, ici, quelque part dans la Drôme. C'est là où je te rencontre, dans ta petite maison de pierre sur les hauteurs du village Le Pouet en Persip. Et j'arrive dans une petite maison. Ben, c'est Tenzin, ta femme tibétaine, qui nous ouvre la porte. Et enfin, on passe du virtuel à la réalité des réseaux sociaux, à quelque chose d'incarné dans la matière. Donc Alex, peut-être m'intéresser à ton univers, à ton parcours, et peut-être plus simplement parler du voyage. Donc par quoi ou qu'est-ce qui... Bon, les Bretons, vous êtes des voyageurs nés, mais qu'est-ce qui t'a amené, toi, à avoir envie de quitter la Bretagne pour aller sur les routes du monde?
Ce qui m'a amené à avoir envie de voyager... et précisément en Himalaya au début, c'est parce que mes parents faisaient de l'alpinisme et du trek quand j'étais gamin. Enfin, ils en font toujours. Et je me souviens d'un jour où on était à la montagne dans le Briançonnais avec leur copain guide qui revenait du Pakistan, du K2. Et il n'était pas arrivé au sommet, mais il était descendu en parapente. J'avais 7 ans, donc c'était il y a 30 ans, de 7000 mètres au Pakistan sur le K2. Et il nous montrait ses diapos en racontant l'histoire, son histoire, alors qu'il venait de revenir de son expé. Et là, je me suis dit, moi aussi, j'irai. Et puis, mes parents, pareil, dès qu'ils revenaient à l'automne du Népal, ils me montraient ses diapos et j'avais vraiment envie. Et puis, ce qui a été le déclencheur exact, c'est un jour, je trouve dans la bibliothèque de mes parents un bouquin qui s'appelle La baleine blanche de Jacques Lanzmann. Je dois avoir 11-12 ans. Et c'est l'histoire d'un Alex, donc déjà, voilà, qui a 13 ans. Donc, je m'identifie rapidement au personnage principal, qui part avec son grand-père à la recherche du père qui est parti il y a des mois au Népal. Et ils vont comme ça aller, donc c'est un bouquin qui a été écrit au début des années 80, et ils vont comme ça aller sur le sanctuaire des Annapurna à la recherche du père. Et là, bon, bah voilà, le bouquin, c'est devenu vraiment mon bouquin de chevet que j'ai dû lire 10 fois en 5 ans quand j'étais ado. Et là, je me suis dit clairement, j'irai là-bas, et puis c'est devenu une obsession. Je lisais tous les bouquins d'Ella Maillard, d'Alexandra Davinel, de Baco, etc. On avait la chance d'avoir un très bel atlas à la maison, grand. Et du coup, j'apprenais par cœur le nom des bleds de tout l'Himalaya. Et puis j'allais au vieux campeur, je passais mes mercredis après-midi ou mes samedis là-bas pour aller voir les cartes, etc. Et puis bah, pendant quand j'ai eu mon bac, j'y suis allé. Je m'étais inscrit au Langso, à l'INALCO, en Népali, civilisation népalaise, enfin himalayenne. Mais j'ai préféré d'abord y aller pour sentir le truc. Donc je suis resté un an là-bas. Et puis après, ça c'était il y a 27 ans. Donc après, c'est 27 ans de voyage en Asie.
27 ans de voyage en Asie, donc qui ont commencé par vraiment l'Himalaya. Pour toi, c'était la destination coup de cœur. En tout cas, c'est ça qui t'appelait le plus.
Absolument. En fait, j'ai découvert la civilisation indienne et qui m'a complètement bluffé, enfin, vraiment très fortement intéressé pendant les années suivantes. Mais c'était presque par accident. C'est que, en tant que touriste, on peut rester 5 mois au Népal. Donc, au bout de 5 mois... Après avoir crapahuté, donné des cours d'anglais dans des écoles, j'ai dû quitter le Népal. Je suis allé en Inde pour retourner dans l'Himalaya, d'ailleurs, en Himachal et au Ladakh. Mais c'est comme ça aussi, en passant par Delhi, le Rajasthan, que j'ai pris contact avec le monde indien. Et là, c'était une ouverture absolument phénoménale, à la fois philosophique, spirituelle. Et du coup, bah voilà, ça m'a lancé encore sur d'autres perspectives, d'autres lectures, d'autres rencontres au Lanzhou avec des profs incroyables. Et puis sur place, bien sûr, avant tout, quoi. En Himalaya, il y a aussi ce reste de nomadisme, de simplicité, entre guillemets, moins codifié, on va dire. C'est moins codifié que dans le monde indien de caste, etc. Et donc au départ c'était ça, et puis après ben, j'en ai fait mon métier, parce qu'au départ je m'étais dit ouais, j'aimerais bien être anthropologue, et puis de manière très naïve, parce que pour moi l'anthropologie c'était faire que du terrain. Puis quand j'ai compris avec mes profs des Lanzhou qui étaient au CNRS que c'était surtout aller à la bibliothèque très froide l'hiver du CNRS en région parisienne, je me suis dit ouais, c'est pas pour moi. Et du coup, j'ai eu la chance de devenir accompagnateur en trek, en montagne, à l'âge de 20 ans, pendant que j'étais au Lhangzhou. Et donc, j'allais pas en cours, mais par contre, j'étais sur les chemins de trek au Népal, au Ladakh. Je piste aussi de VTT au Rajasthan. Et puis voilà, puis après, ça a été le tourisme. Je me suis dit que c'était une belle aventure que de faire vivre des moments extraordinaires en randonnée à des voyageurs, et que du coup, voyager était devenu mon métier et vice-versa.
C'est ça, tu fais partie de ceux qui ont créé leur réalité professionnelle. Il y a cette notion, quand on est ado, on nous demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard dans la vie. Et à ces gens, ça devient un métier passion. C'était comme une évidence pour toi, tu avais envie de continuer à voyager, continuer à apprendre, à explorer. Donc le tourisme est venu comme le moyen qui allait te permettre de pouvoir vivre ta réalité.
Ah ouais, c'est exactement ça. Mais c'est pas, voilà, c'était pas calculé du tout. C'est venu comme ça, de manière très, très, très simple, très évidente. Et puis, ça m'a pas lâché. Alors, ça m'a lâché quand même en termes de voyage, découverte, à partir du moment où j'ai créé ma boîte. Parce que je me suis retrouvé plus à manager qu'à voyager. À organiser des voyages, mais en étant moins sur le terrain. Pour autant, c'est hyper excitant parce que tu fais voyager de plus en plus de personnes qui sont contents, heureux, voire très heureux. Et puis tu changes quelque part les gens. Moi, c'est ça qui me rend très heureux dans notre métier, c'est que tu transformes les gens. Il y a ce côté-là transformationnel à travers le voyage, qui est ce que moi je recherche à proposer aux voyageurs. C'est cette notion-là en fait. Et cette transformation, elle est d'ailleurs vraie pour les voyageurs, mais elle est vraie aussi pour les accueillants. Donc l'idée, c'est qu'il y ait transformation, ouais, mais qu'elle soit une belle transformation, qui est une vraie rencontre riche à la fois pour le voyageur et à la fois pour la personne qui accueille le voyageur. Thank you.
voyage, donc j'aime bien que tu utilises le mot le voyage pour se transformer soi. Qu'est-ce que c'est que pour toi voyager? Pourquoi est-ce qu'il faut voyager? Qu'est-ce que ça t'a apporté et comment est-ce que ça t'a transformé?
Moi, ce qui m'a beaucoup... ce que j'ai trouvé extrêmement enrichissant avec la découverte du monde indien et sa philosophie, c'est que c'était, je trouvais au départ, très antinomique de ma culture, de ce qu'on m'avait inculqué, étant gamin, que ce soit à l'école ou dans ma famille. Et donc, ça permet de remettre en question ses propres schémas culturels. Et ça, je trouve, c'est un éveil extraordinaire. C'est vraiment une chance. Donc, c'est aussi, du coup, faire le... Comment dire ? J'allais dire faire le tri. C'est pas forcément faire le tri, mais c'est savoir que notre schéma n'est pas forcément celui de tout le monde. Et après, en apprenant d'autres schémas, en essayant de comprendre d'autres schémas, c'est se dire quel va être le mien, en fait. Et essayer de se créer son propre schéma, essayer de le faire. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que je l'ai fait, mais c'est une espèce de recherche comme ça, perpétuelle, de se dire, ce concept-là, ou cette manière de vivre-là, je vais en faire de ce qui n'est pas de ma culture, je vais pourtant le faire mien, ou je vais essayer du moins. Donc je trouve que c'est ce qui pour moi est la vraie valeur du voyage.
Et cette notion donc de remettre en question ses propres croyances pour en découvrir d'autres et se rendre compte qu'il n'y a pas qu'une réalité mais qu'elle est multiple.
Absolument. Il y a de nombreuses réalités. Et puis, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est un cheminement avec parfois des montagnes russes. C'est-à-dire que ingurgité, entre guillemets, de connaissances sur le monde indien quand j'avais 20 ans, je pense commencer à le digérer seulement maintenant. C'est ça qui est génial, c'est que ça reste et puis ça évolue, au fur et à mesure de d'autres rencontres, d'autres voyages, mais ça évolue aussi à travers l'âge qui est le mien ou mon évolution, le fait qu'aujourd'hui je sois père ou que je sois rentré aussi en France, enfin voilà, donc ça continue d'évoluer. Et c'est super, c'est la vie qui continue de bouger, rien n'est figé.
Tu as ramené un petit bout d'Himalaya aussi, hein, ta femme Tenzin qui est tibétaine mais qui a grandi, qui est née à Pokhara dans un village de réfugiés tibétains. Tu me parliais d'une balade que vous avez faite, d'une balade de 9 mois je crois dans l'Himalaya. J'aimerais qu'on revienne sur cette partie là de ta vie qui a donné naissance je crois à différents documentaires, en tout cas avec une vraie quête, une quête personnelle, une quête de retour aux origines et retour aux sources.
Ouais, je questionnais beaucoup Tenzin depuis que je l'ai rencontrée, donc depuis 10 ans, ma femme, je la questionnais beaucoup sur d'où elle venait, d'où ses parents venaient surtout, et comment ils avaient fui le Tibet, etc., etc. Puis je sentais qu'il y avait c'était des tabous. Ils n'en parlaient pas vraiment dans la famille, comme souvent quand il y a des moments tragiques dans une vie. Souvent, les personnes qui les ont vécues n'en parlent pas à leurs enfants ou à leurs proches. Et puis, à la naissance de Lamo, notre fille, il y a 5 ans, je me suis dit, ouais, bon, ok, mais là, c'est important que Lamo, elle sache d'où elle vient. Et quand on s'était dit à la naissance de Lamo, quand Lamo aura 3, 4, 5 ans, on se fera un grand voyage de retour aux sources, les sources surtout pour Tenzin, tibétaine, pour Lamo forcément aussi, et puis quelque part pour moi aussi, puisque ça fait 27 ans que je voyage en Himalaya et que j'y voyage moins depuis une quinzaine d'années, en tout cas moins longtemps. Bah oui, l'idée c'était de retourner là où les parents de Tenzin avaient vécu, et vécu des moments parfois difficiles. Alors on a commencé par le plateau du Changtang côté Ladakh, puisque Tenzin ne peut pas se rendre au Tibet de par son nom, elle n'aurait pas le permis pour voyager au Tibet. Donc c'était l'idée, c'était de s'en rapprocher sans y aller. Elle n'y est d'ailleurs jamais allée, C'est son rêve, mais elle ne peut pas. Donc l'idée, c'était de se rapprocher le plus possible du Tibet pour qu'elle ne serait-ce qu'elle le voit. Toute cette bordure, toutes ces régions qui bordent le Tibet, que ce soit au Bhoutan, en Inde ou au Népal, sont habitées par des populations soit tibétaines, soit d'origine tibétaine et bouddhiste, donc qui partagent la même culture. Et du coup, on a commencé ce voyage par le plateau du Changtang au Ladakh, puisque la maman de Tenzin était nomade, comme ses parents, comme ses grands-parents et arrière-grands-parents. Et donc, on est allé à la rencontre de ces nomades tibétains ou ladakhis qui vivent vraiment tout près de la frontière tibétaine. Et voilà, ça a permis à Tenzin et à Lamo de connaître ce qu'était la vie au quotidien de la maman de Tenzin avant qu'elle ne s'enfuit du Tibet avec le Dalai Lama en 59 et qu'elle vienne s'installer au Népal. Et ensuite, on est allé au Mustang, donc au Népal, parce que pour découvrir ce qu'avait été la vie du papa de Tenzin pendant 15 ans lorsqu'il était... lorsqu'il a combattu l'armée chinoise avec 3000 autres Tibétains pendant une quinzaine d'années. As sure as the river runs to the sea, one day, one day, one day, the land of snow, Tibet will be free, one day, one day, one day, and if you can see it in your mind, there's no stopping what will be. Picture it, know it's true. Tibet will be free. Tibet will be free.
Donc oui, tu me disais, après être allé sur les traces de la mère de Tenzin, c'était l'idée de retourner au Mustang où son père avait combattu l'armée chinoise.
C'est ça. Son père, en fait, il s'est enfui lui aussi en 1959 à la suite du Dalai Lama. Et lui combattait déjà puisqu'il était Kham, donc de la région de l'est du Tibet, là où il y avait le plus de combats, de combattants contre l'armée de libération chinoise. Et du coup, il s'est enfui avec 3000 autres Tibétains pour combattre une quinzaine d'années à partir du Mustang, qui était donc frontalier du sud Tibet. Et dans des conditions ultra difficiles, mais on savait pas grand-chose. Il y a un bouquin d'un Américain qui retrace toute cette histoire, qu'on avait lu évidemment, mais on souhaitait vraiment aller voir de nos propres yeux les conditions dans lesquelles ces hommes se sont battus. Et effectivement, il y a encore des ruines de camps, de nombreuses ruines de camps dans des vallées perdues à la frontière tibétaine à plus de 4000 mètres d'altitude, parfois 4005, 4006.
Mais du côté népalais, alors, dans le royaume du Mustang.
Dans le royaume du Mustang, exactement. Et la fin a été absolument tragique parce qu'au bout de... Donc la CIA aidait ses combattants financièrement, mais aussi leur apportait une vraie aide logistique, les formait. Certains, comme le père de Tenzin, sont carrément allés jusqu'au Colorado en formation dans des centres de la CIA aux États-Unis. Et puis en 73, je crois, ou 72, Nixon va à Pékin, rencontre Mao et lui dit « Ouais, en fait, on pourrait faire la paix et ce serait pas mal. » Et Mao lui dit « Bah oui, mais tu arrêtes ces histoires avec les Tibétains au Mustang, on sait tout et il faut arrêter. » Et du coup, du jour au lendemain, ces 3000 combattants se sont retrouvés sans argent, sans aide logistique. Et certains ont décidé de rendre les armes, la plupart ont rendu les armes, certains se sont suicidés, ils ne voulaient pas imaginer avoir passé 15 ans de leur vie à combattre et que ça se termine comme ça. Et puis quelques autres sont partis avec leur chef pour essayer d'aller en Inde et de recréer comme ça des camps du côté indien proche du Tibet et se sont fait assassiner par l'armée népalaise en l'occurrence.
Quand on parle du Tibet, c'est un sujet complexe. Tu parlais de l'Indo, il y a le Kham, il y a la partie autonome, la région autonome. Donc le Tibet, c'est quand même grand, très grand. C'est divers. Tu l'as évoqué rapidement, en 59, le Dalai Lama a dû fuir le Tibet pour créer un gouvernement en exil aujourd'hui à Dharamsala. Pour revenir un peu sur cette histoire, donc Tenzin, qui est tibétaine, tu l'as dit, n'a jamais pu retourner au Tibet, ne pourra vraisemblablement jamais y retourner.
Absolument. Et Tenzin était apatride jusqu'à l'âge de 25 ans. Et en fait, les autorités indiennes ont ouvert la nationalité indienne à de nombreux Tibétains réfugiés. Et du coup, elle est aujourd'hui indienne. Et effectivement, malgré le fait qu'elle soit indienne, son nom même lui interdit de se rendre au Tibet. Donc c'est un rêve pour elle, comme pour tout Tibétain, c'est de retourner au Tibet, en tout cas de découvrir leur pays. Et en particulier d'aller faire la Kora du Kailash, donc le pèlerinage autour de la montagne sacrée du mont Kailash. Ça, on ira un jour, forcément, on ne sait pas comment, quand, mais on ira.
Donc aujourd'hui encore, il y a beaucoup de Tibétains qui sont apatrides, qui vivent soit en Inde dans des camps, soit au Népal, mais qui ne peuvent pas retourner dans ce qui était une époque leur pays.
Absolument, ouais, ils sont très nombreux, ils sont des centaines de milliers de personnes, surtout en Inde. Un peu au Népal, un peu au Bhoutan, et puis après dans des pays européens comme la Suisse ou la France, ou les États-Unis et le Canada, ou encore l'Australie. Alors certains prennent la nationalité au bout d'un certain temps du pays qui les a accueillis, mais dans leur fort intérieur, ils restent bien évidemment tibétains. En tout cas, ils ont une partie d'eux-mêmes, de leur qui reste très attachée au Tibet.
Mais qu'est-ce qui fait que, on va prendre le cas Tenzin, qui est donc une nationalité, donc d'origine tibétaine, mais aujourd'hui nationalisée indienne, avec un prénom et un nom tibétain, ne puisse pas retourner au Tibet si elle est indienne?
Tout simplement parce que le gouvernement chinois ne souhaite pas qu'il y ait de lien entre les Tibétains qui vivent aujourd'hui au Tibet et des Tibétains qui auraient été réfugiés et qui pourraient leur donner des envies de démocratie, par exemple, ou de révolte.
Et toi, avec ton passeport français, est-ce que tu as eu l'occasion d'aller au Tibet, à ce pays pris en otage?
Je suis allé au Tibet en 2001 et je m'en suis fait déloger le 12 septembre 2001. Puisque les attentats avaient eu lieu la veille, et que le gouvernement chinois avait décidé qu'il n'y aurait plus d'étrangers sur le sol tibétain à la suite de cet attentat. Pourquoi, je n'en ai aucune idée. En tous les cas, on m'a réveillé à minuit, 1h du matin, dans ma chambre de guest house, d'hôtel, avec 6 policiers qui ne parlaient pas anglais, moi pas chinois, c'était compliqué. Mais enfin, la personne à l'hôtel m'a expliqué en anglais que je devais être parti le lendemain. Donc j'ai pris un vol pour le Yunnan. Mais donc j'ai été allé par la route de Katmandou à Lhasa. Et moi, je ne retournerai pas là-bas, sauf avec Tenzin. En tout cas parce que tu as rappelé qu'effectivement il y avait différentes régions du Tibet, et je ne retournerai pas dans cette zone du soi-disant Tibet autonome, sauf avec Tenzin pour aller au Mont Kailash. Je le souhaite vraiment, parce que quand je vois des documentaires ou des reportages, ou quand je lis des articles aujourd'hui sur le Tibet, cette partie du Tibet, je vois tel changement en 15 ans, donc en un peu plus, en 20 ans, de tels changements que moi je considère comme négatifs, que ça me rend très triste, et j'ai envie de garder aussi ce souvenir du Tibet que j'avais découvert en 2001, c'était pas la fête hein, pour les Tibétains, très loin de là. C'était pas la fête, mais il n'y avait pas encore de parking sous le Jokang, il n'y avait pas de McDonald's, etc., dans la vieille ville. Et c'était 2001, c'était avant 2008, avant tous les événements qu'il y a pu y avoir. Donc il y avait eu une espèce comme ça de pseudo-ouverture à la fin des années 90 qui faisait que les Tibétains étaient un peu plus libres qu'ils ne l'avaient été, bien évidemment, avant, et qu'ils ne le sont aujourd'hui.
Je profite de prendre le micro pour partager une expérience plus personnelle vécue sur un voyage récent au Tibet. Donc effectivement, quand tu arrives aujourd'hui à Lhasa, c'est une ville moderne, complètement développée, avec des caméras de surveillance absolument partout. Des checkpoints aussi, énormément de checkpoints, autour du Jokhan. Donc le Jokhan, c'est donc le centre névralgique de Lhasa, les anciens quartiers tibétains, là où sont enterrés tous les Dalai Lama. Et autour du Jokhan patrouillent toute la journée des soldats chinois avec des sortes de filets à papillons pour attraper les moines ou les gens qui potentiellement tenteraient de s'immoler. Mais c'est vrai que quand on y va en tant que voyageur non averti, on a l'impression que tout va bien, que tout va même très bien, parce que la vie est calme, les conditions de vie sont plutôt bonnes, les infrastructures sont bien développées. Mais quand même, j'ai eu l'occasion de rencontrer une dame tibétaine qui avait un orphelinat, qui n'a pas pu le garder. Son projet a été récupéré par le gouvernement chinois. Et quand on lui posait la question, quel est l'avenir, selon elle, des Tibétains, donc elle répond en pleurant qu'il n'y en a pas.
Ouais, c'est là la limite aussi. Et ce que souhaite le gouvernement chinois en interdisant aux réfugiés de se rendre au Tibet, ou alors aux Tibétains de sortir pour voyager, c'est qu'on les réfugiés ne savent pas réellement ce qui s'y passe et quelle est la situation pour les Tibétains et comment ils le vivent. Et du coup, j'ai l'impression que pour les Tibétains réfugiés, de ce que j'entends, de ce que je lis, eux sont, comment dire, je dirais pas optimistes, mais en tout cas il y a une lueur d'espoir, sachant que le Dalai Lama lui-même évoque cette lueur d'espoir, puisque lui ne demande plus l'indépendance pour son pays, mais l'autonomie, et qu'il considère que ce serait totalement logique et ça irait totalement dans le sens de l'histoire que les Chinois l'acceptent. Mais ça, les Tibétains de l'intérieur, ils n'ont même pas le droit d'entendre ce que dit le Dalai Lama. Ils le savent pour la plupart d'entre eux même pas ce qu'il dit ou ce qu'il propose. Donc voilà, c'est compliqué. C'est très compliqué. Mais en tout cas, ce qui est très fort, c'est que tous les Tibétains que je rencontre s'intéressent au quotidien à la presse tibétaine, au sens à Dharamshala hein, surtout, à ce qui se passe pour les Tibétains. Et voilà, alors que la plupart ne sont même pas nés dans le pays, ils se sentent tous extrêmement concernés.
Les jeunes générations de Tibétains nés au Tibet, dans la partie autonome aujourd'hui, ne parlent pour la plupart quasi plus la langue tibétaine.
Ouais, ça c'est très bien joué stratégiquement ou tactiquement parlant par les Chinois, puisqu'on sait que c'est quand même avant tout par la langue que passe la culture et donc les racines de ces gens.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher,
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.